Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, à différents niveaux, nous avons tous besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux, que ce soit pour réaliser l'existence de Dieu pour certains, ou pour d'autres, pour réaliser son amour et sa puissance miraculeuse. D'autres ont besoin de découvrir sa présence attentive auprès d'eux, pour les soutenir et les secourir dans leurs difficultés. D'autres encore, qu'il est désireux de les délivrer de leurs liens, de leurs fardeaux, de leurs addictions, et qu'il est proche et prêt à intervenir pour cela. D'autres encore ont besoin de comprendre ce qu'est le baptême du Saint-Esprit et le fait d'être constamment rempli du Saint-Esprit. De toute manière, nous avons tous, à notre niveau, au point où nous en sommes parvenus, oui, nous avons tous besoin d'une révélation de Christ ressuscité ou d'une nouvelle révélation de Christ ressuscité. Pour cela, il faut que nous cherchions avec ardeur, jusqu'à ce que nous trouvions. Il faut que nous aspirions fortement aux choses des meilleures, aux choses d'en haut. Il nous faut encore et toujours chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si nous avons faim et soif de la présence du Seigneur et de la communion avec lui, certainement il se révélera à nous, nous ouvrira les yeux pour sa plus grande gloire et notre bénédiction. Amen. Notre témoignage d'aujourd'hui pourrait avoir pour titre « À la recherche du Saint-Esprit ». Et en ces quelques instants que nous allons passer ensemble, je vous ai présenté la vie d'un homme qui a été un vaillant ouvrier au service de Dieu, de son prochain. Et si je vous parle de lui, c'est que bien qu'il soit mort depuis plus de 110 ans maintenant, il a laissé à ceux qui sont venus après lui un exemple qui fait réfléchir. Et par ses écrits, des pensées qui peuvent abreuver ceux qui sont assoiffés des choses divines. Cet homme s'appelait Tommy Fallow. Il a vécu pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Durant plusieurs décennies, il a, tant comme prédicateur que comme conférencier, répandu dans toute la France le message du royaume de Dieu, invitant ses auditeurs à réformer leur vie en comptant sur les promesses que contient la Bible et à faire régner parmi les hommes la justice et la paix. C'est au banc de la Roche, dans les Vosges, qu'il est né en 1844. Sa famille protestante était très attachée à l'Évangile. Et de bonne heure, il sentit naître en lui le désir de vivre non pour lui-même, mais pour les autres, en particulier pour les plus déshérités de ses frères, les pauvres, victimes des injustices des puissants. Il faut dire que le banc de la Roche avait eu comme pasteur un homme de Dieu d'un format peu commun, Oberlin, qui fut à la fois un prédicateur puissant et un réformateur social. Parlant de lui, Tommy Fallow écrit plus tard « J'ai grandi dans le rayonnement de cette grande figure. Ce voyant, nous dirions aujourd'hui ce prophète, qui passait des nuits en prière, a renouvelé l'aspect de mon pays natal. Il a creusé des routes, construit des ponts, changé des marécages en terre fertile, couvert les coteaux arides d'arbres fruitiers. Tommy Fallow a été fortement imprégné par ce qu'il a entendu dire de cet homme, dont la foi, essentiellement pratique, tendait à faire de la terre un véritable royaume de Dieu, où tout même les cloches des vaches, comme il disait, devaient être consacrées au Seigneur. Le jeune Tommy Fallow eut du reste le privilège de rencontrer un autre homme de Dieu, l'industriel Dieterlen, qui lui aussi s'efforçait de mettre toute son énergie et toutes ses ressources au service des pauvres. Dans une telle atmosphère, le jeune homme comprit qu'il devait lui aussi faire quelque chose pour chercher à réparer les injustices du monde et à sauver les malheureux. Mais il se rendait compte que par lui-même, il ne pouvait rien. Ce qu'il lui fallait, ce qu'il faut à tout homme qui veut servir ses frères, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes travaillés et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est aussi Jésus qui donne la force nécessaire à ceux qui veulent le servir. N'a-t-il pas dit au moment de quitter ses disciples, et avant de retourner vers son Père, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ?» C'est donc de la vie abondante et généreuse de l'Esprit que le jeune homme, comme tout homme, avait besoin. Le 22 octobre 1865, Tommy Fallow, qui avait 21 ans, fit une expérience unique que son biographe, le pasteur Mark Bugner, son neveu, a décrite en ces termes. Il est seul dans la petite chambre où, depuis 3 semaines, il n'a cessé de chercher et de prier. Une grande angoisse étreint son âme. À quoi ont abouti jusqu'à présent toutes les crises morales qu'il a traversé. Depuis 2 ans et demi, il s'est épuisé en efforts pour réaliser l'idéal d'humanité entrevu, mais ses efforts ont été stériles. Aujourd'hui, il se sent plus que jamais éloigné du but. De sa vie passée, il ne revoit que les défaites, qui semblent s'élever comme un infranchissable obstacle entre Dieu et lui. Mais croit-il vraiment en Dieu? Croit-il en Jésus-Christ? Et le voilà entraîné à une révision de ses convictions religieuses. Il croit ce qu'on lui a enseigné, il croit ce que lui a dit M. Litterlein, mais par lui-même, que croit-il? Rien, quelle faillite! Mais la question domine tous les tumultes de son âme, et dans celle-ci, un grand silence se fait. Il faut qu'il réponde à cette question. Il sent que sa vie dépend de la réponse qu'il va faire. C'est alors que dans le silence qui l'entoure et le pénètre, il entend une voix qui lui impose cette réponse. Croire en Jésus-Christ, c'est croire au Christ vivant. Croire en Jésus-Christ, c'est croire au Christ vivant. Au même instant, l'unité se fait entre toutes les énergies de son être. Toutes les forces intérieures semblent s'harmoniser autour de la certitude qui vient de prendre possession de son cœur, lui apportant la joie, la lumière et la paix. Le soir descend sur la terre, mais dans l'âme de Tommy Fallot, c'est l'aube d'une vie nouvelle qui se lève. Cette expérience fondamentale qui a été le point de départ de sa vie, de service, nous sommes tous, vous, chers auditeurs comme moi-même, appelés à le faire. Mais après cela, toutes choses deviennent nouvelles et il est possible d'apporter à ceux qui souffrent le merveilleux réconfort de l'Évangile. C'est comme pasteur que Tommy Fallot se consacra au service de son Seigneur, mais son grand ami Litterlein l'avait fait, lui, comme industriel. C'est donc que tous les hommes, quelle que soit leur situation, peuvent devenir les témoins de Christ dans un monde livré à toutes les luttes et les injustices. Du reste, les épreuves ne furent pas épargnées à ce serviteur de Dieu. Tour à tour, sa femme et son enfant lui ont été repris. Lui-même a souffert toute sa vie d'une santé médiocre. Mais en dépit de tout, il cherchait avec amour les âmes perdues pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut que Jésus donne. Du reste, c'est dans le dépouillement de l'épreuve que Tommy Fallot s'est attaché toujours davantage à son Seigneur. Le temps nous manque, chers amis, pour passer en revue les innombrables tâches dont il s'acquitta. Il tenta notamment d'allier sa foi en un Dieu vivant avec le rétablissement de l'ordre de la justice sur la terre. Comme Joséphine Beutler en Angleterre, il parcourut toute la France et même les pays voisins pour des croisades en faveur de la femme, allant jusqu'à créer une ligue de la moralité publique destinée à lutter contre le scandale des maisons de tolérance et de la prostitution organisée. Cette croisade-là, il la mena sans s'accorder aucun repos durant 8 ans. Hélas, les oppositions acharnées auxquelles il se heurta brisèrent sa résistance physique, le condamnant finalement à un repos absolu de 3 ans. Mais de cette épreuve terrible, Dieu tira sa plus grande gloire. Il fait alors une expérience nouvelle qui le rafraîchit et le transforme. Dieu, écrit-il, vient de me rendre d'une façon inespérée l'usage, un certain usage de la parole qu'il avait perdu. De plus, Dieu m'a parlé, repris, châtié, façonné de 1000 manières durant ces 3 ans de solitude, en sorte que je me sens beaucoup plus armé que je ne l'avais jamais été pour le service direct des âmes, surtout pour la cure d'âme. Et en 1892, il va jusqu'à bénir la maladie qui l'a amené à faire un tel retour sur lui-même. Dès lors, il reprend son ministère pastoral dans la Drôme, où il passa les 12 dernières années de sa vie, celles qui furent probablement les plus fructueuses. En dépit de nouvelles épreuves et des deuils cruels qui frappèrent son foyer, en dépit de la maladie qui cherchait de le terrasser, il poursuivit une œuvre bénie. Ce qui le préoccupe surtout durant ces dernières années, c'est la nécessité de communiquer aux autres, le fruit de ses recherches et de ses méditations, la grande vérité du Saint-Esprit. Cette magnifique découverte, révélée au contact direct de Dieu, dans les luttes, dans la prière, il la décrit dans son « Livre de l'action bonne », dont il termine la rédaction quelques mois plus tard, avant de s'éteindre à l'âge de 60 ans. Mais avec quelle hâte il désirait achever cette œuvre où il apportait le meilleur de lui-même à la gloire de son Dieu. Nous aimerions pouvoir épuiser ensemble des enseignements pour aujourd'hui, car cette vérité dont il a fait la nourriture exclusive de ces dernières années est valable pour tous les temps, comme pour tous les hommes de toute race. Qu'il nous suffise d'en extraire quelques pensées que je vous laisse comme des mots d'ordre. Par exemple, Celui-là seul, qui sait vouloir l'esprit comme il n'a jamais voulu autre chose, l'obtiendra, dit-il. Et encore, il n'y a qu'une seule réponse possible au soupir de l'homme, quelle que soit la forme qu'il revête, c'est le don de l'esprit. Et puis encore, j'appelle homme spirituel celui qui a reçu le baptême d'esprit et de feu et qui peut le communiquer à ses semblables. Cet homme est le chef-d'œuvre des voies divines. Et enfin, cette espérance qu'on ne croirait pas être celle d'un homme brisé dans son corps et dans ses affections, « Le temps des miracles n'est pas fini, dit-il. Avec l'humanité prête à se constituer en Dieu, il va recommencer. Nous allons au-devant de miracles sans nombre. » Quelle vision glorieuse, n'est-il pas vrai, chers amis? Mais il ne faut pas l'oublier, comme le dit Tommy Fallow, que le livre qui inspire l'action bonne, c'est la Bible. Procurez-vous donc la parole de Dieu, puis lisez-la. C'est elle qui, relatant les paroles de Jésus-Christ, rappelle que la promesse, celle du Saint-Esprit, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Dieu veuille vous accorder de faire cette riche expérience. Voilà, bien-aimés, nous voulons ouvrir aussi la parole de Dieu, mais avant cela, nous voulons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes. Nous te remercions pour ta parole qui est vivante et agissante, qui est pour nous véritablement le moyen de foi par l'action de ton esprit. Et merci parce que tu es celui qui nous fortifie dans tes voies et celui qui nous garde dans de bonnes dispositions pour recevoir ta parole avec une âme bien disposée. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Notre texte d'aujourd'hui se trouve donc dans l'évangile de Luc au chapitre 24, où nous lirons à partir du verset 13. Luc chapitre 24, verset 13. Donc ça se passe après la résurrection de Jésus. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Et lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Voilà. Voici les versets dans lesquels il est beaucoup, beaucoup question de voir. Des hommes auraient voulu voir Jésus ressuscité et ne l'ont pas vu parce que leur cœur n'était pas dans la foi. ce qu'on voit au verset 24. D'autres ont eu Jésus à côté d'eux, ont marché et parlé avec lui, et ils ne l'ont pas vraiment vu pendant tout un temps. C'est ce qu'on voit au verset 16. Et c'est seulement quand l'incrédulité a été ôtée de leur cœur qu'ils l'ont reconnu, comme on le voit au verset 31. Et la grande question, c'est « Voulez-vous voir Jésus ? Voulez-vous voir Jésus agir et opérer toutes sortes de choses merveilleuses ? Alors il faut que se produise d'abord une œuvre de foi dans votre cœur. Sinon, les miracles les plus flagrants pourront se produire à 20 cm de votre nez, vous ne les verrez pas plus qu'une taupe ne voit au fond de sa galerie. » Et c'est donc là le sujet principal de notre message d'aujourd'hui. Nous pourrons développer successivement trois grands points. En premier, nous parlerons des choses qui empêchaient Jésus de se manifester à ses deux disciples. Ensuite, nous parlerons des bonnes choses qui se sont trouvées en eux. Et puis, nous pourrons parler, Dieu voulant aussi, de la façon admirable dont Jésus a agi à leur égard. Donc, en premier, voyons ces choses qui empêchaient Jésus de se manifester à ses deux disciples. Et la première chose que nous pouvons remarquer, c'est que ces deux disciples s'éloignaient de Jérusalem, comme il nous a dit au verset 13. Ils s'éloignaient du lieu où leur Seigneur avait été crucifié, là où il avait été enseveli, sans prêter foi aux promesses concernant le troisième jour, puisque c'est justement ce troisième jour qu'ils partent. Ils ont perdu leur espérance et sont en train de perdre leur foi aux paroles de Jésus. Jésus est en quelque sorte obligé de leur courir après pour les ramener dans la bonne voie et qu'ils ne perdent pas les merveilleuses bénédictions qui vont être répandues suite à la résurrection. Quel dommage s'ils n'y avaient pas participé. Et ça, c'est l'image de ceux qui s'éloignent du Seigneur et de la maison de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose et qu'ils n'ont pas obtenu la réponse à telle ou telle espérance ou prière. Ah, qu'ils ne se privent pas des bénédictions que le Seigneur veut donner à ceux qui ont la foi et qui la gardent. Ensuite, une deuxième chose que nous voyons là, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, au verset 16. Et nous voyons là la conséquence de leur incrédulité, comme nous l'avons déjà dit, et un péché en même temps. Ils ne marchent pas par la foi, mais par la vue, comme nous l'avons expliqué déjà. Et c'est pourquoi, alors que la solution est là, l'exaucement si merveilleux, la réponse à leurs problèmes, ils demeurent avec leurs problèmes, leurs difficultés et leurs questions. Et que de gens aujourd'hui qui demeurent dans leurs questions, dans leurs interrogations, dans leurs problèmes sans issue, alors que Jésus est là, tout proche, avec la réponse et la solution pour tout problème et toute difficulté. Simplement, il leur faut se confier en lui. J'en reviens aux disciples qui ne croient que partiellement en Jésus. C'est ce qu'on voit bien dans les versets 19 à 21. Parce que ce qu'ils croient n'est pas faux. Jésus de Nazareth est effectivement un prophète. Il était effectivement puissant en parole et puissant en œuvre, devant Dieu et devant tout le peuple. Il a effectivement été condamné à mort et crucifié par les autorités, et il était la délivrance d'Israël en espérance. Donc, il croyait toutes ces choses et tout cela était juste. Mais là, malheureusement, ce qu'il croit est insuffisant. Parce qu'il ne croit pas là, il ne croit plus là, en tout cas qu'il est le Fils de Dieu, Dieu béni pour l'éternité. Il ne croit pas qu'il est ressuscité, sinon il ne parlerait ni n'agirait ainsi. Et beaucoup d'hommes sont dans ce cas aujourd'hui. Ils croient un certain nombre de choses au sujet de Jésus, mais ils ne croient pas vraiment à sa résurrection. Sinon ils croiraient aux miracles et aux prodiges du Seigneur aujourd'hui. Sinon, ils croiraient que le Seigneur peut et veut agir pour les exaucer dans telle maladie incurable ou dans telle difficulté sans solution humaine. Et ils s'approcheraient de plus en plus de lui, avec joie, avec foi et une pleine espérance, ce qui leur permettrait de voir sa gloire pour eux. Ses disciples aussi sont étonnés par les témoignages. C'est ce qu'on voit aussi au verset 28, mais pas au point de croire. Lorsque les femmes viennent vers eux pour leur dire ce qui s'est passé avec les anges, ils sont étonnés, mais ils n'ont pas cherché ni à comprendre ni à approfondir. Et ils ont continué dans leur voie d'incrédulité et d'éloignement que le Seigneur leur reprochera ensuite. Et c'est aussi ce qui explique leur aveuglement. Comme ces hommes qui avaient vu le paralytique guéri par Jésus, et qui sont repartis étonnés en disant « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges », mais sans que cela les ait amenés à changer. De même pour beaucoup d'entre eux, du moins pour beaucoup d'entre eux. Et je sais que la plupart d'entre vous, aujourd'hui ou à d'autres moments, vous avez entendu des témoignages dont certains vous ont étonné, et même fort étonné. Mais êtes-vous simplement reparti étonné pour continuer votre existence comme auparavant, en ajoutant simplement une question supplémentaire à la liste de ceux qui n'ont pas trouvé de réponse pour vous? Si oui, vous êtes encore dans l'incrédulité. Et pour que Dieu agisse pour vous, il faut que vous changiez. Il faut que vous cherchiez la raison des choses. Il faut en fait que vous vous approchiez du Seigneur. C'est ainsi qu'il va se révéler. Il nous a dit, le Seigneur dit au verset 25, qu'ils ont été sans intelligence, c'est-à-dire sans compréhension des choses. Ils se sont simplement laissés conduire par les événements et les circonstances sans se demander pourquoi ceci ou cela se passait et quels en seraient les effets, sans chercher à voir en quel temps ils vivaient et quelles étaient les indications de Dieu et de sa parole concernant ces temps et ces circonstances. Et là encore, que d'hommes qui manquent de cette intelligence qu'on pourrait qualifier d'élémentaire, ne réalisant pas que rien ne se fait au hasard. Ne réalisant pas, que toutes choses ont des causes, soit en bien, soit en mal. Que si le malheur, la malédiction, la souffrance sont sur une vie, il y a des raisons à cela et qu'il faut ôter. Il y a des mesures à prendre. Et qu'au contraire, si la bénédiction et l'approbation de Dieu sont sur une existence, il y a là un exemple qu'il faut suivre. Soyons persuadés de ces choses et marchons avec intelligence dans la vie, avec comme guide la parole de Dieu, l'Écriture sainte. Une sixième chose encore qui participe de leurs insuffisances, c'est qu'ils ont un cœur lent à croire la parole de Dieu. C'est aussi ce que le Seigneur leur reproche. Pourtant, que de miracles ils avaient vus de la part de Christ! Que d'expériences ils avaient pu faire eux-mêmes! Que d'enseignements ils avaient entendus de sa propre bouche! Que de messages, que d'exhortations, que de directions, que d'explications! Mais ils demeuraient lents à croire. Ah, que cette remarque demeure malheureusement actuelle! On devrait tout de suite croire au Seigneur, sans discuter, après avoir entendu les témoignages et la prédication de l'Évangile, à plus forte raison quand on a vu le Seigneur agir avec puissance. Mais on pinaille, on hésite, on doute, on a des points d'interrogation. Et quand le Seigneur nous demande d'obéir, eh bien on hésite, on traîne les pieds. Cette lenteur à croire à la parole de Dieu, voilà la cause qui fait que tant de ceux qui ont commencé à être bénis ne le sont plus, et que le Seigneur est obligé d'aller les chercher dans des voies d'égarement. Mais passons à un chapitre plus positif, si on peut dire quelque part, en tout cas plus optimiste. Ça nous parle des bonnes choses qui se sont trouvées dans ses disciples. Parce que si Jésus s'est donné la peine d'aller les chercher, eux, parmi les nombreux qui probablement ont quitté Jérusalem dans la déception, c'est qu'il y avait de bonnes raisons en eux. Et combien nous ferons bien de les imiter en cela, afin que le Seigneur prête attention à nous et vienne nous rechercher jusque dans nos égarements, dont nous sommes hélas si facilement capables. La première chose que nous discernons chez eux, c'est ce souci continuel qu'ils ont des choses de Dieu et qui est bien discernable des versets 14 au verset 16. La bouche parle de ce dont le cœur est plein, dit-on. Ce proverbe est souvent vrai. Quant à ses disciples, nous voyons combien la présence de Jésus, la personne de Jésus, son œuvre, avait d'importance pour eux. Ils s'entretiennent de cela, ils en parlent, ils en discutent, ils en sont littéralement obnubilés. C'est cela qui remplit leurs pensées. Il est vrai que dans la vie, nous avons toutes sortes de choses auxquelles il nous faut réfléchir, mais qu'est-ce qui occupe le plus nos pensées? Quel est notre principal souci, notre principal sujet de réflexion? Le Seigneur dit que si nous voulons être bénis, il nous faut nous attacher aux choses d'en haut. Le Seigneur répond à tous les besoins de ceux qui cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Une autre bonne chose, c'est ce fait même qu'ils se déclarent pour Jésus, alors que c'est un moment difficile pour le faire. C'est ce qu'on voit du verset 19 au verset 21. Et voilà encore quelque chose d'important et de précieux dans l'esprit du Seigneur. Voilà ce disciple qui déclare les mérites et l'excellence de Jésus. Il déclare faire partie des siens, parce qu'au verset 21, il dit « Nous espérions ». Au verset 22, il dit « Quelques femmes d'entre nous ». Donc, dans ce moment où ceux qui suivaient Jésus s'étaient enfuis et où ils étaient mal vus, nous voyons qu'il le déclare à un étranger qu'il ne connaît pas et dont il ne sait pas, après tout, comment il va réagir. Mais cela est tellement dans son cœur qu'il ne peut pas faire autrement que d'en témoigner. Plus les ténèbres sont profondes, plus le rossignol chante fort. Il ne peut s'en empêcher car c'est dans sa nature. Et la violette donne son parfum, il ne peut s'en empêcher, c'est dans sa nature. Et celui qui a la pensée de Christ dans son cœur ne peut faire autrement que de la partager, car c'est dans sa nature également. Et Jésus le cherche et le bénit aussi à cause de cela. Amen. Puis une troisième chose qui est un moyen de bénédiction pour eux, c'est ce fait qu'ils supplient Jésus de rester. Ils supplient de rester celui qui les a si bien enseignés, au verset 29. Vous savez, les disciples sont à la recherche d'un maître. Quand un disciple a perdu son bon maître, il est tout désemparé. Et il part à la recherche d'un maître semblable, et il a raison d'agir ainsi. Le rebelle est insensé, il ne veut pas de maître, il fait n'importe quoi, se moque de la sagesse des disciples, il marche seul dans son chemin, et dit de chacun de ceux qu'il rencontre, voilà un fou. Mais le Seigneur Jésus dit de ses brebis qu'elles le connaissent et qu'elles le suivent, et que ne suivront point un étranger, point un autre berger. Et ainsi, quand quelqu'un est de la vérité, il écoute la voix de Jésus, et il ne veut plus en suivre d'autres. Et nous en avons l'exemple ici, dans ces deux disciples, deux brebis égarées et perdues, ils ne savent pas où ils en sont, mais intérieurement, instinctivement, ils reconnaissent la voix du bon berger. Et c'est pourquoi ils veulent s'attacher à lui avec d'autant plus de force, c'est pourquoi Dieu les bénit. Attachez-vous ainsi au Seigneur et à sa parole pour être bénis de même. Une autre chose encore très positive dans l'estime du Seigneur, c'est que ces deux disciples vont se laisser reprendre pour leur manque d'intelligence et de foi. Les paroles que cet étranger leur adresse au départ ne sont pas tellement agréables, même si elles sont vraies. C'est au verset 25, on le voit. Toute vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Beaucoup auraient réagi, mais pour qui vous prenez-vous? Vous ne nous connaissez pas. Et ça, c'est l'orgueil de l'homme qui ne veut pas se laisser reprendre. Le psaume 119 nous rappelle « Avant d'être humilié, je m'égarais. » « Maintenant, j'observe ta parole. » Tel est le témoignage de tout vrai croyant. Dieu bénit les humbles, ceux qui acceptent de reconnaître leurs manquements et leurs limites, leurs péchés et leurs fautes, et c'est pour cela qu'ils ont été bénis également. Et puis, une cinquième chose précieuse aux yeux du Seigneur, au verset 32, il nous est indiqué que leur cœur brûle quand la parole de Dieu leur est expliquée. Ah, pour ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur cœur, la révélation de la parole de Dieu est comme un livre fermé et scellé. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ils peuvent lire des chapitres entiers de l'Écriture et ils n'en auront pas la substantifique moelle. Ils peuvent écouter des prédications enflammées, mais le principal en sera pour eux obscur comme du chinois. Mais ceux dont le cœur est touché et bien disposé, à combien c'est différent pour eux ? Ah, comme ça brûle dans leur cœur quand retentit l'Évangile, surtout la prédication de la croix. Ah, la divine chaleur et la divine lumière rendant ce cœur brûlant pour Christ. Plus de froideur, plus de tiédeur, c'est la vérité, crie la conscience. C'est l'amour, crie l'âme assoiffée. C'est la justice, crie le cœur repentant. C'est la grâce et la gloire, s'écrie l'esprit enflammé. Et c'est ainsi que la foi fortifié, produit des résolutions fermes qui font marcher pour Dieu d'une façon décidée. Amen. Une chose encore que nous voyons au verset 33, c'est que ces hommes se lèvent à l'heure même et partent en pleine nuit. Alors là, maintenant, les bonnes habitudes régulières sont mises entre parenthèses. Tant pis pour le repos, tant pis pour la sagesse pour cette fois. Devant une si merveilleuse nouvelle, toutes les autres priorités disparaissent. On y va, même s'il faut passer une nuit blanche, même si les autres pensent qu'on est fou. Vous savez, on en faisait bien d'autres des bêtises et des excès quand on était dans le monde, et pour des raisons bien moins valables. Maintenant qu'on a le Seigneur tellement plus grand et merveilleux, est-ce qu'on ne peut pas être aussi un peu excessif pour lui? Si le cœur est brûlant, eh bien que les actes le soient aussi. et que nous allions porter son nom et sa gloire partout. Amen. Et puis une septième chose encore que nous pouvons relever enfin, avant d'arriver à notre point suivant. Le verset 33 au 35 nous montre comment ils se joignent à l'assemblée de ceux qui ont foi en Jésus. Voilà des dizaines de personnes rassemblées en pleine nuit. Que faites-vous là? Nous croyons en Jésus, oui, mais en Jésus ressuscité. Ah, alors tout est possible. La gloire du Seigneur va être au milieu d'eux. Les signes et les prodiges vont pouvoir se poursuivre. Et vous avez là, nous avons là, pour chacun d'entre nous, un appel à se joindre fidèlement à une telle assemblée où on témoigne des preuves de la résurrection du Seigneur. C'est là qu'est les bénédictions d'en haut, en ce temps-là comme aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et puis parlons maintenant, enfin, en troisième grand point, de la façon admirable dont Jésus a agi à leur égard. Voyez d'abord, au verset 15 et 16, qu'il s'approche et qu'il fait route avec eux sans qu'ils le reconnaissent. Nous en avons déjà expliqué les raisons. Mais voilà comment le Seigneur fait effectivement aujourd'hui encore pour plusieurs, qui peuvent être, qui sont probablement parmi mes auditeurs et qui peut-être ne s'en rendent pas compte, mais que le Seigneur suit avec le désir de les bénir dès que ce sera possible, dès qu'ils se laisseront éclairer et réchauffer leur cœur par lui. Et puis, le Seigneur leur fait, en quelque sorte, vider leur cœur. Verset 19 au verset 24. Parce que c'est aussi ce qui se passe lorsque Cléopas répond à la question que Jésus lui pose au début. Toutes ces questions à lui, toutes ces déceptions, ces souffrances, ces angoisses pour l'avenir, ces questions sans réponse, ces erreurs même ressortent lorsqu'il dit à Jésus, sans savoir que c'est lui, parce qu'il dit tout cela à Jésus, et Jésus le laisse dire, parce que cela est nécessaire, parce que l'œuvre de la grâce doit pouvoir s'accomplir de cette manière, ensuite pleinement en lui. Quel soulagement merveilleux il y a à pouvoir répandre son âme devant l'Éternel, et à se relever ensuite avec un visage changé, parce qu'il est celui sur lequel nous pouvons nous décharger de tout souci, parce que lui-même prend soin de nous, béni soit son nom. Amen. Et puis une troisième chose que fait le Seigneur, c'est qu'il met le doigt sur leur manque d'intelligence et de foi dans cette situation. C'est l'œuvre de la conviction de péché qui s'opère au travers de la parole de Christ et par le moyen du Saint-Esprit, qui agit pour cela, afin de produire en eux repentance et changement. Rappelez-vous, dans le deuxième chapitre du livre des Actes, l'exhortation adressée par l'apôtre Pierre à ses nombreux auditeurs. « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » C'est là la base que le Seigneur veut établir dans une vie pour y construire quelque chose de durable, de glorieux et d'éternel. Et puis nous voyons ensuite que le Seigneur s'attache longuement, dans les versets 26 et 27, à leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Pour que la foi vienne dans leur cœur, que leurs yeux s'ouvrent, il faut qu'ils reçoivent le message de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus leur prêche si longuement. Et c'est aussi pour cela que la parole de Dieu est prêchée ce soir et qu'elle doit continuer à l'être avec le secours du Seigneur, oui, avec le secours indispensable de l'Esprit de Christ, afin que la foi naisse et grandisse dans nos cœurs, pour que vous et moi ayons une bonne et légitime idée de Christ, de son œuvre, de sa gloire et de son amour, et qu'ainsi nous puissions le discerner de plus en plus clairement. Amen. Et puis voyons ensuite une autre chose qui peut paraître surprenante au verset 28 et 29. C'est que le Seigneur s'éloigne, et se laisse en quelque sorte presser par eux, parce qu'effectivement, voilà le moment de les mettre à l'épreuve. Jésus aurait certainement continué et les aurait quittés sans se révéler à eux s'il n'avait pas fait des efforts pour le retenir. N'avait-il pas entendu des témoignages? N'avait-il pas entendu maintenant la prédication de la parole? À eux donc, maintenant, de lutter un peu, en quelque sorte, pour la plénitude de la bénédiction. Ne nous attendons pas à ce que Jésus nous court après lorsque nous avons commencé à être bénis et convaincus. Mais supplions-le Attachons-nous à lui, à sa parole, à son assemblée, et luttons avec persévérance, car c'est ainsi qu'il pourra nous donner plus encore. Et puis la sixième chose que nous voyons, c'est la façon dont il s'est mis à table avec eux au verset 30. Quel précieux moment de communion personnelle avec Jésus. Et ceci, bien sûr, nous renvoie à ce précieux passage de l'Apocalypse, chapitre 3 et au verset 20, où il est écrit, le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » Et voici donc un appel à vraiment accueillir Jésus dans son propre cœur et dans sa maison, pour que Dieu y mette son salut et puisse y développer tout le grand projet qu'il a pour vous. Et puis nous le voyons qu'il se révèle en coupant, en rompant le pain, là aussi, versets 30 et 31, repris au verset 35. Ceci nous parle, c'est vrai, de l'importance de la Sainte Cène et surtout de l'œuvre de Christ, ce corps rompu, symbolisé dans le pain rompu de ce vin, Seigneur, ce vin qui est le symbole du sang de Christ répandu. Et ça nous parle bien sûr surtout de l'importance de chercher la communion de Christ. Alors oui, en conclusion, bien, nous voici appelés à le chercher de tout cœur pour qu'il se révèle à nous. Nous voici appelés à vider nos cœurs devant lui avec vérité et sincérité. Nous voici appelés à bien recevoir sa parole pour qu'elle puisse être produite la foi et la vie. Nous voici appelés à ne pas le laisser s'éloigner, à ne pas laisser passer l'occasion, mais à le supplier et à ce que la vie soit changée, une réelle conversion, le faire entrer dans son cœur et dans sa maison et l'y garder, là, toujours, comme notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître, notre glorieux Souverain. Amen. Merci Seigneur, c'est toi encore qui bénis, c'est toi encore qui sauve, c'est toi encore qui agit. C'est toi encore, Seigneur, qui ouvre les yeux des cœurs pour que chacun puisse discerner la merveilleuse présence de Christ, Seigneur, et puisse véritablement se confier en lui et véritablement le bénir et l'adorer, l'établir comme sauveur et Seigneur dans sa vie, Jésus. Et tu vois parmi mes auditeurs qui sont là, ceux qui reçoivent cette parole maintenant, et merci pour la manière dont tu écoutes leurs prières et dont tu agis avec eux admirablement dans ta grande et précieuse grâce. Sois glorifié notre Dieu. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, simplement quelques annonces pour vous rappeler l'évangélisation dans les villages du samedi après-midi. Donc, c'est dans les boîtes aux lettres pour l'instant. Le rendez-vous est à l'église à 14h30 samedi. Pour ce qui concerne le culte, dimanche à l'église, nous en sommes toujours avec deux horaires possibles, un à 8h30, l'autre à 10h45. Il est bon de s'inscrire pour l'un ou pour l'autre sans tarder si on veut y participer, vous inscrire sur le site de l'église ou par téléphone. Et je vous rappelle que la réunion de prière pour le moment se tient les mercredis à 16h, toujours à cause du couvre-feu, il n'y a pas besoin de s'inscrire pour cette réunion de prière. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie en lui, pour que vous puissiez le chercher d'autant mieux et qu'il puisse se révéler à vos cœurs. Amen.